Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la Coupe du Monde de football 2018 en Russie. La première rencontre de la journée Portugal-Maroc commence en ce moment même au stade de Loujniski à Moscou. Après leur défaite dans leur premier match, les Lions de l'Atlas marocain doivent absolument donner une bonne performance s'ils veulent rester dans la compétition. La deuxième rencontre de la journée, Uruguay-Arabie Saoudite à 15h30 universel à Rostov sur le Don. Le troisième match, Iran-Espagne à 18h30 universel à Kazan. Hier, le Sénégal était en fête après la victoire des Lions de la Teranga 2-1 face à la Pologne. Le seul succès d'une équipe africaine en match d'ouverture. Des scènes de liesse étaient visibles partout à Dakar et dans les régions de l'intérieur. Une victoire fêtée à l'unisson à la place de l'Obélisque dans la capitale, comme nous le dit notre envoyé spécial Abdourahmane Dia.
Des centaines de supporters qui explosent de joie sur une place de l'obélisque pleine à craquer. Youssou a quitté un quartier de la banlieue et a préféré regarder le match ici en public. Deux écrans géants pour le plaisir des fans.
Ouais, ça va très bien, ambiance totale.
Et pourtant, il y a quelques semaines, beaucoup n'avaient pas cru aux chances de l'équipe nationale sénégalaise et le sélectionneur Alioune Cissé était souvent l'objet de critiques. Youssou nous dit que tout cela, c'est du passé. Et pour cet autre supporter, Falouba, une bonne participation du Sénégal à la Coupe du Monde peut être bénéfique pour la cohésion nationale.
Bon, oui, c'est bien parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de critiques envers le gouvernement et tout ceci. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de manifestations. Si le Sénégal continue sur la Coupe du Monde encore jusqu'au demi-finale, après ça peut ramener un peu la tension.
Ça peut faire baisser la tension.
Oui, ça peut faire baisser la tension surtout.
Mais on est un pays pauvre. Quand vous voyez les gens rentrer tôt pour aller regarder le match, vous pensez que c'est une bonne chose?
Ah, mais comme c'est un problème de la nation, c'est la nation qui demande. Si c'était autre chose, si c'était politique ou bien, après les gens ne vont pas quitter le lieu de travail. Mais comme c'est pour le Sénégal, tout le monde va aller regarder.
Abdourahmane Dia, Dakar, VOA Afrique.
On reste en Afrique de l'Ouest. Les services de sécurité du Burkina Faso ont publié ce mercredi les noms de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe djihadiste Ansarul Islam et pour des actes ou complicité d'actes terroristes. En tête de liste figure Abdul Salam Diko alias Jafar, présenté comme le leader actuel du groupe Ansarul Islam, très actif dans le nord du Burkina Faso. Au Mali voisin, les autorités ont reconnu mardi l'implication de militaires dans des violations graves ayant occasionné mort d'hommes à Nantaka et Kobaka, après la découverte de fosses communes dans le centre du pays. Elles se disent prêtes à en assumer les conséquences. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans la région de Mopti, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Le ministre de la Défense, Tiena Koulibaly, dit avoir instruit au procureur militaire d'ouvrir une enquête judiciaire. Monsieur Koulibaly a également réitéré sa détermination et sa ferme volonté de lutter contre l'impunité. Les résultats de cette enquête seront examinés avec toutes les conséquences que nous assumerons, a affirmé mardi soir le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en recevant à Bamako des membres d'associations de défense des droits humains. On reste au Mali où une femme se lance dans la course à la présidence. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession, mais il fera face à de nombreux concurrents d'une opposition dispersée. Au micro de Kadi Traoré, on écoute Madame Kanté Dienava Ndiaye, candidate déclarée à la présidence du Mali.
Je me suis présentée parce que je ne vois pas de différence entre hommes et femmes. Je ne vois pas trop de différence. L'homme peut gérer bien, la femme peut aussi bien gérer. C'est pour cela que je voudrais quand même mettre un peu de changement pour dire aux hommes que la femme aussi peut mieux faire. C'est quand même la décision de Dieu. Je ne vois pas de difficultés. Je ne vois pas du tout de difficultés. C'est quand même un pays qui sait déjà que tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire plus mieux. Donc c'est pour cela que je voudrais quand même montrer à tout le monde que j'ai décidé aider, j'ai confiance à moi et puis j'ai confiance à toutes les femmes.
Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans la gestion politique malienne?
La paix entre les hommes politiques, la paix. Nous sommes des Maliens, qu'on se donne d'abord la main. On se donne la main, je viens avec la paix. Parce que sans la paix, il n'y a rien. Moi, en tant que femme, entre les hommes politiques, je veux qu'on se donne la main, nous tous, pour venir d'abord avec la paix.
Madame Kanté Dinaba Ndiaye, candidate déclarée à la présidence du Mali.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Afrique centrale maintenant, l'Assemblée nationale et le Sénat de la RDC sont convoqués en session extraordinaire ce mercredi pour examiner, à la demande du président Joseph Kabila, une loi sur le statut et la protection d'anciens présidents de la République démocratique du Congo. La proposition de loi portant statut des anciens présidents traîne depuis 3 ans sans être examinée. Cette législation est une initiative du sénateur Modeste Moutinga du groupe des 7 partis frondeurs, le G7, qui avait quitté la majorité présidentielle en septembre 2015. L'Assemblée nationale compte examiner aussi le rapport annuel de la commission chargée d'organiser les élections en RDC et le dossier relatif au remplacement de certains membres de cette commission. Députés et sénateurs examineront aussi la loi sur la protection et la responsabilité du défenseur des droits humains. Et toujours en RDC, mauvaise nouvelle pour le mouvement citoyen Filimbi, la détention provisoire de 5 de ses militants pro-démocratie poursuivis pour outrage à la personne du chef de l'État Joseph Kabila a été prolongée de 15 jours. Les détails avec Eddy Isango.
Le tribunal d'Engaliema a statué pour prolonger de 15 jours leur détention. L'audience a eu lieu devant la chambre du conseil à la prison de Makala, le plus grand centre pénitentiaire de Kinshasa où ils sont détenus depuis le 9 juin. La cour a rendu un jugement en faveur du parquet alors que la défense a plaidé pour une libération provisoire, dénonçant par ailleurs une détention irrégulière. Les 5 militants ont été présentés au parquet après plus de 5 mois de détention sans charge, ni assistance judiciaire, ni droit de visite dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Leur leader, Carbone Beni, âgé d'une 30aine d'années, avait été hospitalisé récemment. Ses proches affirment qu'ils ont reçu des mauvais traitements pendant leur détention. Carbone Beni, Mino Boponi, Cédric Kalonji, Grace Chunza et Palmer Kabeya ont été arrêtés fin décembre. Ils mobilisaient pour la marche des catholiques du 31 décembre pour demander au président Kabila de quitter les pouvoirs.
Conflit au Soudan du Sud, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé ce mercredi matin à Addis Abeba en Éthiopie, où il doit rencontrer le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, pour la première fois en 2 ans. Objectif, tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. Et puis le président érythréen Isaias Afwerki a annoncé ce mercredi l'envoi prochain d'une délégation en Éthiopie pour discuter d'une paix entre les 2 ennemis jurés. Et ce, en réponse aux signaux positifs, dit-il, émis par le nouveau premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Actualité américaine maintenant. Les États-Unis se sont retirés mardi du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en accusant l'institution basée à Genève d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. Une décision aussitôt dénoncée par des organisations de défense des droits fondamentaux. Washington dit qu'un simple regard sur les États membres du Conseil montre un manque de respect épouvantable pour les droits les plus fondamentaux, citant des abus au Venezuela, en Chine, à Cuba et en République démocratique du Congo. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie, a lancé devant la presse à Washington l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, aux côtés du secrétaire d'État Mike Pompeo. La diplomate américaine a également accusé le Conseil de partialité chronique à l'égard d'Israël. Cette annonce intervient au lendemain de vives critiques du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein, contre ce qu'il a appelé la politique pratique inadmissible et cruelle des autorités américaines de séparation d'enfants de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine. Mais Nikki Haley et Mike Pompeo ont assuré que la décision était liée à l'échec des tentatives de réforme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Si l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, s'est réjoui de ce retrait et a remercié les États-Unis pour leur refus de la haine aveugle à l'égard d'Israël dans les institutions internationales, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit qu'il aurait préféré que les États-Unis restent au Conseil des droits de l'homme, a déclaré son porte-parole.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.